Donc Matthieu chapitre 4, et nous allons voir le récit de la tentation de Christ. Je vais mettre de côté Marc pendant quelques semaines peut-être, je vais mettre Marc de côté et nous allons faire certaines études. Donc donc Matthieu chapitre 4, et nous allons lire les versets 1 à 11. J'ai intitulé notre étude ce matin « Pourquoi la tentation de Christ ?» Pourquoi fallait-il que Jésus soit tenté ? Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'y réfléchir, mais pourquoi fallait-il qu'il soit tenté ? Et si je comprends pourquoi il fallait que Jésus soit tenté, je comprends pourquoi moi je dois être tenté et éprouvé dans ma vie chrétienne aussi. Lisons d'abord le récit. Et il nous est rapporté dans les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Hein, donc c'est un récit important. Et c'est une étape importante dans la vie de Christ. Il fallait qu'il passe par là. Donc verset 1, Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça c'est notre verset. Le verset 1 c'est celui qui va nous occuper ce matin. Donc, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il, c'est-à-dire Dieu, donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. En fait, nous allons voir que le premier verset. Et justement, pourquoi est-ce que Jésus devait être tenté ? C'est-à-dire, il y aurait deux manières de poser la question. Et dit, la première, c'est est-ce que Jésus pourrait être tenté à pécher ? Lui qui est Dieu, pourrait-on le tenter à pécher ? Pouvait-il pécher ? Et puis, et s'il trébuchait dans la tentation, eh bien, on pourrait trouver en lui une faille, une faiblesse. Et donc, il serait rejeté en tant que sacrifice pour nous. Ou d'autre part, s'il était incapable de pécher, pourquoi le tenter ? Et puis, vous pouvez partir avec ces deux questions-là et vous pouvez aller discuter pendant longtemps. Il y a les théologiens, il y a les étudiants de facultés théologiques qui les discutent. Et puis, sans jamais arriver à des conclusions, parce que finalement, ce n'est pas là l'intérêt. Hein. On peut aller et avoir des discussions de mots qui mènent à rien et qui ne changent rien dans la vie spirituelle. Donc, je ne vais pas partir par là, hein, ni dans l'une des questions, ni dans l'autre. Mais je fais faire la remarque tout de suite que Dieu a permis que Job soit tenté tout en sachant qu'il résisterait. Aussi, Abraham, Dieu l'a éprouvé en lui demandant de sacrifier son fils, sachant que par ce moyen, Abraham confirmerait sa foi. Donc être tenté, ce n'est pas pour faire péché, éprouver. Il serait certainement utile pour nous de constater que Jésus a été tenté, et si Jésus a été tenté, pourquoi ne le serions pas ? Nous ne le serions pas. Hein. Si lui est tenté, pourquoi pas nous alors ? Hein, nous sommes moindres que lui. Et puis il y a une chose aussi, je veux dire que la tentation n'est pas réservée aux chrétiens charnels. En fait, les chrétiens les plus spirituels sont éprouvés. Hein? Donc ça n'a rien à faire. Le fait d'être éprouvé, le fait de passer par un moment difficile ne veut rien dire sur notre état spirituel. Sinon, que Dieu s'intéresse à nous. Notons aussi que ce n'est pas la seule fois où Jésus est tenté. C'est la première fois. Il sera tenté un peu plus tard. Hein? Un jour, il parlera avec les disciples et puis Pierre dira « Ah non, jamais tu ne mourras. » Et Jésus répond « Arrière de moi, Satan. » Satan s'était caché derrière Pierre. Il l'avait fait parler pour essayer de faire trébucher Jésus. Mais Jésus l'a reconnu. Et puis après, quand on pense à la veille de la crucifixion, Jésus, pendant 3 heures, agonisant avec Dieu et priant, parce qu'il était éprouvé, éprouvé dans son être intérieur. C'était peut-être plus douloureux que ce qu'il a subi sur la croix. Satan a tout fait pour essayer de le discréditer. Comme je soulignais ici dans le verset 1, le chapitre 4, verset 1, il nous dit « Alors, c'est l'adverbe, alors ça veut dire que c'est le lien avec ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est le baptême de Christ. Hein. Alors, hein, il fut emmené par l'esprit, ces prépositions-là sont importantes, par l'esprit, c'est pas le diable, c'est l'esprit qui le conduit par l'esprit pour être tenté, encore une préposition pour être tenté avec cette intention, et puis par le diable, une autre préposition, par le diable, pas par autre chose. C'est-à-dire, nous avons d'abord les circonstances de cette tentation, alors, voilà les circonstances de la tentation, et après, il y a aussi le plan divin, c'était par l'Esprit de Dieu. Il y a un plan divin qui s'accomplit là. Et puis après, troisièmement, nous voyons le but, c'est pour être tenté. Et quatrièmement, eh bien, nous avons l'instrument de la tentation, c'est le diable. Alors nous allons prendre chacun de ces points. Mais avant d'aller trop loin, ou plus loin, eh bien, je veux dire que vous avez remarqué qu'il est tenté par le diable. Je veux distinguer cela des tentations que nous avons par nos passions. Hein. J'aime ceci, j'ai ce plaisir-là, j'ai cette passion-là, et je suis tenté par cela. Ça, c'est des tentations par les passions, et ça, c'est autre chose. Hein, ça, c'est des tentations qui sont là pour nous faire tomber. Hein. J'aime le chocolat, je vois du chocolat, et en plus du chocolat belge, comment résister? Et alors, ça c'est une tentation, ça c'est autre chose. Hein? Et surtout si c'est le médecin il m'a dit interdit le chocolat, alors là, la tentation elle est forte. Ça c'est autre chose. Mais ici c'est tenté par le diable, c'est éprouvé dans notre marche chrétienne. Et ça, c'est autre chose. Et c'est de cela que nous allons parler. Hein. Dans Jacques, celle qui vient de nos passions, le passage qui en parle, c'est dans Jacques chapitre 1. Je vais lire ça rapidement pour que vous voyez la différence. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ça, c'est quand j'ai une convoitise, j'ai une passion, j'ai quelque chose que j'aime, et il y a quelque chose en moi qui le veut. Hein? Donc ça, c'est une autre forme de tentation vers le mal pour chuter. Mais ce que nous allons voir ici, c'est les tentations, mais c'est l'épreuve, la tentation que Dieu donne, c'est pour nous faire avancer, nous affermir dans la foi. Donc, premièrement, les circonstances. Hein, c'est le « alors Jésus ». Jésus vient de passer 30 ans de sa vie dans un atelier de charpentier. Les évangiles ne disent rien sur cette partie-là de sa vie, sinon bon, la naissance, et puis après à l'âge de 12 ans. Hein, mais sinon, après l'âge de 12 ans, jusqu'à 30 ans, 18 ans, il y a ces années silencieuses. Il ne parle de rien du tout. Le diable le laisse tranquille. Tout est calme. C'est le calme plat, on ne dérange pas un bébé qui dort. Hein. Et alors... Mais Jésus porte un secret dans son cœur. Ce secret, il n'y a que Marie, sa mère, et puis Joseph, son beau-père, qui sont conscients. Parce que quand Jésus était dans le temple à l'âge de 12 ans, Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais pendant 18 ans, il n'a rien fait. Il n'a fait qu'observer la vie. Personnellement, je pense que pendant ces 18 ans, c'est là où il a vu les exemples qui ensuite sont devenus des paraboles qu'il a utilisées. Il a vu beaucoup de choses, mais il ne faisait qu'observer. Mais là, peut-être qu'il connaissait les circonstances de sa naissance, peut-être sa mère lui a raconté les circonstances de sa naissance, peut-être qu'elle lui a raconté le récit des mages, peut-être qu'elle lui a expliqué pourquoi ils étaient descendus en Égypte pendant un temps. Mais il ne prend aucune initiative dans les affaires de son père jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, eh bien, Jésus va vers le Jourdain où il trouve Jean-Baptiste. Et c'est le moment choisi. Dieu avait déjà parlé à Jean-Baptiste pour qu'il reconnaisse Jésus. C'est le moment, et quand Jean-Baptiste le voit, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Jésus s'approche, il avance dans l'eau et demande à Jean de le baptiser. Et il le baptise, Jésus est en prière lorsque Jésus sort de l'eau, et puis c'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre. Et on entend la voix qui dit, et c'est la fin du verset chapitre 3 de Matthieu que vous avez, cette parole qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et au moment où il y a cette parole-là, où Dieu le Père déclare la filiation, où Jésus est mis en valeur devant tout le monde publiquement maintenant, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, eh bien c'est juste à ce moment-là, un moment glorieux, mais à ce moment-là, eh bien, que s'enclenche la tentation, l'épreuve. La première leçon que je tire, c'est justement lorsqu'on décide de ne plus vivre dans l'anonymat, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'anonymat, hein. Personne ne sait que je suis chrétien, je me fonds dans la masse et je n'ai pas de problème. Le jour où je me déclare, le jour où je dis à ma famille, moi je suis chrétien, le jour où je dis à mes copains, ça y est, je suis chrétien, maintenant je vis pour Jésus-Christ. Ouh là, c'est que là ça commence. Lorsqu'on prend la résolution une résolution en faveur du Seigneur. C'est à ce moment-là que commence l'épreuve. Lorsque je décide maintenant, dorénavant, même si je suis chrétien depuis un certain temps, mais je décide maintenant, je vais vivre pour Dieu, eh bien, sachez que tout de suite, eh bien, s'enclenchent les épreuves. Lorsque je consacre ma vie, et c'est des épreuves qui sont dignes de l'appellation, hein. Épreuves, on ne donne pas ça, c'est pas des bénédictions. Les bénédictions, on sait ce que c'est. Et une épreuve, c'est autre chose. Une épreuve, c'est pas agréable, sinon on l'appellerait une bénédiction. Et une épreuve, ça se sent, ça se ressent, on s'en souvient. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul a été porté au paradis. Et il a dit, j'ai vu des choses merveilleuses. Mais vous lisez juste après, dans le même chapitre, il dit, j'ai une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Après la vision céleste qu'il a eue, eh bien il a eu l'écharde dans la chair. Au point où il s'était crié, Dieu, s'il te plaît, enlève-le. Il a dit 3 fois, je lui ai demandé. Et chaque fois, il a répondu, ma grâce te suffit, j'enlève pas. Je te donne la grâce qui te permet de supporter. L'épreuve était constante dorénavant. Alors c'est lorsque Jésus est sorti de l'eau et il priait en sortant de l'eau. Et pour la première fois, il est déclaré fils de Dieu pour que tous l'entendent. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, c'est justement par ces paroles-là que le diable entame la tentation. Hein, la première tentation dit, si tu es le fils de Dieu, hein, maintenant que ça a été déclaré, si tu es le fils de Dieu, eh bien, prouve-le. Voilà, ces pierres-là, transforme-les en pain. Je viens de faire un voyage en Israël, là-bas. Les cailloux, ça ne manque pas. Il dit, prends ces pierres, si tu es le fils de Dieu. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est le fils de Dieu. Le Père vient de le dire. Il n'y a rien à prouver. Le diable vient et toujours des choses inutiles. Il n'y a rien à prouver. Si Dieu l'a dit, et il y a eu des témoins, c'est tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de transformer les cailloux en pain. Mais Satan veut faire trébucher Jésus en lui demandant de demander des preuves inutiles. Et parfois, on s'engage pour le Seigneur et après l'épreuve arrive, on dit « Seigneur, donne-moi un signe que tu m'as appelé. » Le fait que tu t'es engagé à vivre pour le Seigneur et tu as une épreuve, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais que le Seigneur t'a appelé, tu as décidé, tu as compris, tu prends ton engagement, tu n'as pas besoin de signe. Demande au Seigneur la grâce de continuer. Vous savez, je suis enfant de Dieu et puis je dis, Seigneur, écoute, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Vous savez, la première chose que Satan va venir vous dire, il dit, tu as décidé de vivre pour le Seigneur. Mais qu'on va voir ça. Et puis, il amène quelqu'un qui se moque de nous. Ou il amène, justement, j'ai envie, et puis il n'y a rien qui marche. Les portes sont bloquées. Il va se servir exactement comme il a fait avec Jésus. Tu es le fils de Dieu. Eh bien alors, il va venir avec nous, pareillement. Il va dire, tu veux suivre le Seigneur, tu veux être serviteur de Dieu, tu as vu ta vie, qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur, toi? Tu crois qu'il a besoin de toi? Et puis il va nous décourager. Et on répond, Seigneur, tu m'as appelé, je sais que tu m'as appelé, je continue pour toi. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Jésus a répondu avec quoi? Avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Et bien c'est avec ça qu'il répond. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, pourquoi transformer ces cailloux en pain? Et donc cet adverbe « alors » eh bien fait le lien entre la déclaration de Dieu et Satan et Jésus qui est conduit vers la tentation. Le lien est là. La déclaration glorieuse, l'épreuve. C'est normal. Hein? Ne soyons pas étonnés que lorsqu'on se décide de vivre pour le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, il y aura une épreuve. Et peut-être plusieurs. Donc c'est un bon signe même. Ensuite, il nous dit, il était conduit par l'Esprit. Le plan divin. Ce n'était pas les circonstances, ce n'était pas le diable qui décidait ce qui se faisait, c'est Dieu qui décidait ce qui se faisait. Et sachez que même si vous passez par l'épreuve, eh bien, c'est un plan de Dieu. Et si c'est un plan de Dieu, il n'y a rien à craindre, il n'y a qu'à lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne la ressent pas, l'épreuve, parce que c'est une épreuve. Mais c'est que c'est son plan. Et son plan se réalise toujours. Il nous dit qu'il est... Il est emmené par l'Esprit dans le désert. Si vous lisez dans Marc, il dit qu'il est poussé par l'Esprit. Si vous lisez dans Luc, il dit qu'il est conduit par l'Esprit. Peu importe le mot, on a compris, c'est que c'est par là qu'il doit aller. Et donc c'est la volonté de Dieu. Et pour nous, quel enfant de Dieu n'a pas expérimenté justement après un temps fort avec le Seigneur, il s'est retrouvé dans un désert. Où il s'est trouvé dans un nouveau degré de solitude. Plus on s'engage pour le Seigneur, plus on vit la solitude. Parce que plus on se distingue du reste du monde. La solitude avec Dieu, et dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est là où tu vas me trouver. Donc il dit, il y aura une nouvelle solitude. La solitude du fait qu'on n'est pas soutenu, la solitude du fait que bon, les gens ils s'éloignent, on n'est pas intéressant. La solitude, c'est on se retrouve seul avec nos situations. On se trouve seul dans la foule. Il n'y a personne qui partage nos pensées. L'apôtre Paul, une fois, il a dit, mais il n'y a personne qui vous porte les soucis que je porte. Jésus est tout seul. Il y a une solitude. Jésus sur la croix, et ben où étaient les disciples? Il y avait une nouvelle solitude. Plus on s'engage pour Dieu, plus on se retrouve seul. Plus tu montes dans la pyramide de Dieu, plus tu te retrouves seul près de Dieu. Et quelles étaient nos pensées pendant ce moment? Ben, elles étaient dures. L'apôtre, David en a connu un petit peu. Le psaume 63, le psaume 63, verset 2, regardez comment il exprime la chose. Il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Oui, la première partie, elle nous intéresse. Oh Dieu, je te cherche. Et oui, mais pourquoi il dit je te cherche? Parce que je suis dans une terre aride, desséchée. Et ce n'était pas seulement la géographie, c'est qu'il se sentait vraiment seul. Il y a aussi dans le psaume 69 et les versets 2 à 4, psaume 69, versets 2 à 4, il dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. » C'est pas possible. On retourne à Dieu, on se sent bien. Non, non, dans l'épreuve, la question, même dans l'épreuve, dans le moment, il dit dans la terre aride, il dit Dieu, c'est à toi, c'est toi que je cherche pas un autre. vit ici dans le gouffre, dans le marécage. Il dit, c'est vers toi que je crie. C'est vers toi que je crie. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Alors plus on s'engage à vivre pour Dieu. Oui, David avait été... Ça allait très bien dans sa vie. Il n'y avait pas de problème. Il passait des moments agréables avec ses brebis, personne ne l'embêtait. Le jour où il a été loin, c'était le début de ses problèmes. Et pendant 10 ans d'épreuves, 10 ans de fuite, mais qu'ils l'ont préparé pour devenir roi. C'était pas du temps perdu, même si c'était souvent désagréable pour David. Vous savez, certains ont eu l'idée que s'ils s'éloignaient dans le désert et s'ils recherchaient la solitude, ils échapperaient à la tentation. On appelle ça les ermites, on appelle ça les... Mais vous savez, peu importe où nous sommes dans la terre, sur la terre, nous sommes les victimes potentielles de Satan. On ne peut pas le fuir. Parce que c'est son domaine ici maintenant, pour l'instant. La Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous, mais pas pour longtemps. Parce que il essaiera, s'il ne rêve pas, eh bien, il va rôder comme un lion, rugissant, attendant une autre opportunité. Comme il a fait pour Jésus, et nous ne serons pas mieux traités. Parfois, il revient comme un ange de lumière. Pour Jésus, il est venu déguisé en pierre. Hein. Il s'est caché derrière Pierre. Et Jésus l'a reconnu. La manière de résister au diable, c'est pas de lui dire de s'en aller, dégage. Excusez-moi l'expression, mais il y en a qui se servent de ça. Et Dieu est puissant, le diable est plus fort que moi. Hein. C'est pas à moi de m'amuser à essayer de dire au diable quelque chose. Mais ce que je peux faire, et ce que le diable trouve très désagréable, c'est lorsque je transforme la tentation et l'épreuve en une expérience victorieuse. Finalement, quand je sors de la tentation, de l'épreuve, plus fort, plus près du Seigneur, avec une nouvelle connaissance du Seigneur, en train de louer le Dieu, alors là, le diable dit, ouh, là, ça, c'était raté, ça, c'est pas ça que je voulais. La meilleure manière de résister au diable, c'est de transformer. Il vous jette des cailloux, prenez des cailloux, mettez-les sous vos pieds, ça vous fera monter. C'est pas se laisser déranger par les paroles des gens, c'est pas se laisser déranger par les événements, c'est de s'en servir pour augmenter notre foi. Et là, le diable, il dit, oh, il vaut mieux que je le laisse tranquille, parce que là où il était, c'était mieux que maintenant. Hein? Il faut connaître l'ennemi. Il faut comprendre sa psychologie. Et puis compter sur le Seigneur. Vous savez, dans la prière du Seigneur... à notre Père, il nous dit, il y a une partie qui dit, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas. C'est pas là, il ne parle pas de la tentation du type Jacques chapitre 1, hein, là où ce sont nos passions, parce qu'il dit, Dieu ne nous tente pas dans ces domaines-là. C'est dans l'épreuve. Ne nous induis pas dans la tentation ou dans l'épreuve. Et si il suffisait de dire à Dieu, écoute, je préfère éviter l'épreuve, eh bien, et si c'était parce qu'on l'a demandé et que ça ne venait pas, on n'aurait pas besoin de la deuxième partie, mais délivre-moi du malin, on n'aurait pas besoin de cette partie-là. Mais c'est que parfois, Dieu nous induit quand même dans l'épreuve, et donc la deuxième partie est importante, et délivre-moi du malin. Parce que cette épreuve-là, c'est celle que le malin veut utiliser. Mais parfois, Dieu se sert du malin et de ses intentions pour nous fortifier. Donc, c'est le pasteur Adolphe Monod qui dit, voilà comment lui, il exprime la chose, la prière du Seigneur. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous nous défions de nous-mêmes, Seigneur, et nous te disons ainsi que tu nous l'as enseigné. Ne nous induis pas en tentation. Mais s'il faut que nous y soyons amenés, nous ajoutons avec confiance, comme tu nous l'as appris encore, délivre-nous du malin. Il nous suffit de nous rappeler que nous avons en toi un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle qui, parce qu'il a souffert lui-même étant tenté, peut secourir ceux qui sont tentés. Il dit, si je sais que si je, Dieu veut que je sois tenté, éprouvé, alors je dis, délivre-moi du malin. Et je compte sur toi parce que tu as été tenté en toutes choses et tu comprends et tu me délivreras. Je compte sur toi. Donc, tout cela est lié. Dieu a prévu des épreuves pour ceux qui s'engagent à le suivre. Cela fait partie de notre sanctification. Si vous avez lu des biographies de grands serviteurs de Dieu, ben vous avez trouvé qu'ils ont été éprouvés. Vous lisez les vies des prophètes de l'Ancien Testament, ils ont été éprouvés. Alors pourquoi est-ce que moi je ne le serai pas ? Je suis sauvé, mais je ne suis pas encore parfait. Je suis sauvé, ça veut dire qu'on a tiré les marrons du feu. Mais après, il faut faire quelque chose avec. Et Dieu veut nous transformer. Et donc, c'est Dieu qui agit par son esprit. Il est en nous pour nous sceller, mais aussi pour faire cette œuvre de sanctification et de nous transformer. Et si, quelque part, il y a quelque chose qui a causé, a fait que cette sanctification s'est interrompue, a été suspendue, ou j'ai rétrogradé, eh bien, je dois revenir au Seigneur et dire, Seigneur, je veux te suivre. Et puis sachez que ben, les épreuves recommenceront. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a pour nous transformer. Nous avons vu les circonstances, nous avons vu que c'était le plan de Dieu. Et puis le but, quel était le but pour que Jésus soit emmené dans le désert? Eh bien, c'était le but de Dieu. Pour qu'il puisse avoir le ministère sur lequel nous comptons tant. Ce mystère de Jésus sur lequel nous comptons tant, c'est justement son intercession pour nous. Il dit, car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 15 et 16. Il dit, pourquoi est-ce qu'il a été tenté ? C'est afin de pouvoir nous comprendre dans notre épreuve. Lui, il n'avait pas besoin de ça pour être sanctifié, pour être purifié. Où il était tenté, ça a confirmé qu'il était sans péché. Ça a certifié qu'il était digne de devenir notre sacrifice. Mais ça lui permet aussi d'avoir un ministère auprès de nous. C'est de nous comprendre quand on lui parle. C'est pour ça que je peux dire à n'importe quel chrétien, je dis, écoute, dis-lui tout. Et dis-le crûment. Parfois, il y a des choses, on le dit même avec colère à Dieu. Mais dis, je te comprends. Je sais, je suis passé par là, j'ai eu les mêmes... J'ai ressenti ce que tu as ressenti, je te comprends. Mais ma grâce te suffit. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Si nous, dans la tentation, nous échouons, eh bien c'est un péché. On va dire, bon, ben oui, parce que Il a dit, vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Mais dans chaque tentation, dans chaque épreuve, il a déjà préparé un moyen d'en sortir. Alors si je ne suis pas sorti, si je n'ai pas pu traverser, c'est quelque part, je n'ai pas fait confiance au Seigneur. Et donc, il dit, écoute, tu ne m'as pas fait confiance comme tu aurais dû. Et ça s'est mal passé. Le résultat, il n'est pas là. Confesse, dis, Seigneur, excuse-moi, j'ai échoué. Donne-moi une autre opportunité, une autre épreuve pour que je puisse traverser. Il faut pas, quand on voit l'épreuve, c'est pas le moment de s'arrêter, dire non, 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 si je ne suis pas venu à Christ, c'est pour avoir des problèmes, j'en avais assez avant. Oh, mais c'est pas autre chose. Ceux d'avant, ça nous détruisait. Les épreuves que le Seigneur nous donne dans notre vie chrétienne, c'est pour nous affermir, pour nous faire avancer. C'est l'épreuve qui a permis à Joseph d'accéder au palais de Pharaon et de ainsi délivrer sa famille. Ce sont les années de fuite devant Saül qui ont qualifié David pour être roi. C'est à la suite de l'épreuve que Job a pu dire « Maintenant, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant je l'ai vu. » Job chapitre 42. C'est dans la prison que Paul a écrit la majorité des épîtres. C'est pendant que John Bunyan était en prison qu'il a rédigé l'allégorie du voyage du chrétien. Les batailles sont indispensables aux victoires. Vous savez, très simplement, il n'y a pas de diplôme sans examen. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Pas de diplôme sans examen. Et il faut des épreuves. Les examens, on dit l'épreuve du bac, n'est-ce pas? C'est pas fait pour être agréable, c'est pas comme aller à la foire, hein, passer le bac. Ah, vous voyez ces gens, ces bacheliers-là, ils tremblent. Mais c'est comme ça qu'on marque les étapes, qu'on avance dans notre vie chrétienne. Oui, on a vu les circonstances, on a vu que c'était le plan de Dieu, on a vu que le but, eh bien, c'était pour le bien, et c'est pour notre bien aussi. Et dernièrement, l'instrument de l'épreuve. Eh bien, vous savez, ce sont les tentations qui pourraient causer notre chute qui deviennent les occasions pour notre affermissement. C'est-à-dire, l'épreuve est toujours telle que je pourrais tomber sous l'épreuve, mais c'est en traversant cette épreuve-là qui me menace que je peux être affermi. Et comme Satan est toujours disposé à nous tenter, et comme il a toujours envie d'essayer de nous faire trébucher, donc ça l'intéresse, et puis Dieu s'en sert pour nous affermir. C'est pas la première fois que Dieu se sert de Satan. Déjà sur la croix, il s'est servi de Satan. Satan qui a voulu le détruire, il est mort, il est devenu notre sauveur. Oh, chose glorieuse! Et l'Apocalypse nous dit que dans le ciel, il y a un champ nouveau à cause de la croix de Christ. Alors Dieu se sert de Satan, son désir de nous faire tomber, Dieu s'en sert pour nous faire grandir dans notre foi. Je rappelle encore une fois, faisons la distinction entre les tentations qui sont des convoitises, des passions, des désirs de la chair, et qui nous font, qui, en fait, qui ont pour but de nous faire tomber. Ça, il dit, c'est notre propre convoitise qui les crée. Parce que si je n'aimais pas le chocolat, je ne serais jamais tenté par le chocolat. Mais c'est parce que je l'aime que je peux être tenté. Hein? On dit bien en français, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est tout. Et donc... Mais ici, ce sont les épreuves que Dieu permet dans notre vie chrétienne, qui sont normales, mais pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Gravir une marche, c'est toujours l'effort de monter encore. Mais c'est le plan de Dieu. Si c'est nous qui nous laissons tenter par les passions, et on se trouve là face à une tentation que Dieu n'a jamais prévue pour nous, c'est moi qui m'y suis mis dedans, je me retrouve tout seul avec ma tentation. À moins de dire, oh Seigneur, délivre-moi de là. Et alors, il me tire de là. Mais si c'est moi qui vais m'exposer à quelque chose d'inutile qu'il n'a pas prévu pour moi, je dis, tu as voulu faire ce que tu voulais, vas-y. Mais il n'est pas loin. Dès qu'on se tourne vers lui, il est là pour nous récupérer. Donc, si je me suis égaré du Seigneur, je peux me tourner vers lui, me repentir, dire Seigneur, je te demande pardon, je suis détourné, je me suis laissé attirer, j'étais distrait dans ma marche avec toi. Je veux remettre les yeux fixés sur le Seigneur. Et il me relève. Puis après il me dit, bon, on va te tester. Mais, je rappelle encore une fois, on n'est jamais éprouvé au-delà de nos forces. Il prépare toujours un moyen d'en sortir. Nous pouvons lui faire confiance, c'est une promesse. Les hommes jurent entre eux, il dit ma parole. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment dire ça. Il dit ma parole. Je t'ai promis. Parce que sa parole est puissante. Les hommes, ils disent ma parole et puis il n'y a rien, il n'y a pas de puissance dans sa parole. Mais Dieu a puissance dans sa parole. Les épreuves dans lesquelles le Seigneur nous amène sont pour nous affermir en lui et nous découvrir, de permettre de le découvrir plus intimement. J'ai deux passages que je veux lire. Je vais lire d'abord Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Il dit, mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Il dit, finalement, réjouissez-vous, Dieu. Finalement, il vous donne l'opportunité de grandir. Et le dernier passage que je veux lire, c'est dans Deutéronome, parce que Dieu ne change pas, il est le même dans l'Ancien Testament comme il est dans le Nouveau. Deutéronome chapitre 8, c'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël quand il les a sortis de l'Égypte. Une grande délivrance, sortis de l'Égypte, ils traversent la mer, ils voient que l'armée de Pharaon coule dans la mer. Et ils se réjouissent, tambourin, on danse et tout, va bien. Il dit, oh, attends. Après la bénédiction, l'épreuve. Et Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah! Comme ça, on retombe sur le premier verset que Jésus a cité. L'homme ne vit pas de pain seulement. Il dit, tu as été éprouvé. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il y a des gens qui racontent la vie chrétienne, tout d'un coup, hein, c'est pas seulement du pain, tu auras du gâteau, les roses. Ah oui, les roses, elles viennent pas sans les épines. Hein. Et c'est pas juste pour nous embêter. Et c'est pas juste pour... c'est pour notre croissance. Dieu ne prévoit rien qui n'a pas une utilité pour l'éternité. Et puis, bien sûr, je dis en passant, c'est que notre performance dans l'épreuve, eh bien, c'est un témoignage pour les autres, pour les encourager aussi. Parce que combien de fois est-ce qu'on a été encouragé, pas par des gens qui viennent d'être bénis, on est encouragé par des gens qui passent par l'épreuve. C'est eux qui nous encouragent. Alors, voilà, comptant sur le Seigneur. Et il prend soin de nous. Nous allons prier là. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions parce que tu es un Père. Et que tu ne veux pas que tes enfants restent des enfants sans éducation, sans croissance. Oui, ils sont beaux, nés. Mais s'ils restent au berceau toute leur vie, ce n'est pas la peine. Ce qui est normal, c'est qu'on se développe. Et le moyen que tu as utilisé pour nous développer, ce sont les épreuves. Et pour chacun de nous, c'est différent. Nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres. L'un n'est pas éprouvé comme l'autre est éprouvé. Mais chacun, parce que tu as un plan personnalisé, chacun est éprouvé pour répondre à ses propres besoins, sa propre croissance. Père, nous, et c'est par la foi, et c'est en confiant que tu cherches notre bien, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que nous continuons avec toi. Et nous savons que, comme tu l'as promis à Paul, ta grâce nous suffit. Seigneur, fais que nous ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je prie pour toute personne qui ne te connaît pas encore, Seigneur, que ces paroles ne sont pas là pour les décourager, mais pour l'encourager, de savoir que tu accompagnes. Et que quand tu commences une œuvre, tu l'accomplis. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ô Seigneur, tu as un beau plan dans ce livre. Et nous voulons te faire confiance. Transforme nos vies, Seigneur. Fais-nous croître. Et cette ville a besoin d'un témoignage fort à ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Je vous propose un cantique, le 185. Nous avons lu tout à l'heure...